des propositions artistiques estivales au lieu d'art la Halle à Pantin-Royan est incarnée aujourd'hui par Valentin Defaux et son catalogue du dehors. Bonjour Valentin.
Bonjour.
Et bien sûr aussi pour encadrer l'axe artistique de la Halle du lieu d'art, Giulia Turati, bien sûr. Bonjour Giulia.
Bonjour.
Alors on va débuter sans plus tarder avec ce qui est synonyme de la venue de Valentin, à savoir une certaine résidence de transmission, un projet de territoire auquel Valentin a participé, rappelé dans ce cadre qui fait suite à d'autres projets, donner un sens artistique sur le territoire. On peut pas reparler du but de ce type de résidence et également le public visé?
Oui, tout à fait. Les projets de Valentin Catalogue du dehors, on les présente aujourd'hui à quelques jours de l'inauguration de l'exposition. Mais c'est vraiment les résultats d'une année de travail avec différents groupes, différents publics sur les territoires de Saint-Marcellin, Vercors-Isère, communauté. Et ça fait partie de projets un peu tout-terrain de ce qu'on appelle les résidences des transmissions. Où vraiment, l'axe est mis sur la co-création, la participation des publics dans les projets artistiques de l'artiste. Donc, c'est notre 4e édition. Valentin a guidé, était vraiment le directeur artistique de ces catalogues du dehors. Et l'idée, c'était vraiment d'arriver à un moment vraiment de synergie créatrice avec tous ces différents groupes. Donc, à l'intérieur du groupe même, et puis un réseau, les différents groupes, parce qu'on le verra, c'est vraiment quelque chose de l'ordre d'un grand cadavre exquis. Effectivement, 4e édition, je les cite quand même parce que ça a toujours été des projets très riches. On avait commencé en 2020, année malheureuse, mes projets très intéressants avec Rémi Dechiara. On a ensuite eu un duo d'artistes, Adrien Wallis et Camille Bondon, qui avaient présenté les projets NAP. Et avant Valentin, c'était Laura Pardini, qui avait travaillé aussi sur le territoire. Donc on commence à avoir une petite collection de projets où vraiment l'objectif est d'être dans la co-création. Et ce que moi je trouve très intéressant, c'est que aussi les objets finaux sont souvent des objets qui sont rendus collectifs en quelque sorte. C'est jamais des objets qui sont uniques aux particuliers. Il y a vraiment une dimension toujours de re-rendre disponible, fruible vraiment au public très 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 large. Donc on verra comment ça se met en œuvre pour Valentin. Mais voilà, on a justement cette fameuse collection d'NAP qui est toujours imprintable dans les bibliothèques du territoire. On a l'édition de Laura Pardini qui pareil est disponible dans toutes les bibliothèques. Donc effectivement, c'est un projet de territoire qui lie aussi les acteurs culturels. On va pas trop spoiler les résultats de ces recherches. Mais en tout cas, nous, on est vraiment ravie de ces mois de travail et la forme va être aussi très, très belle et très intéressante.
Avec de l'incidence sur les différents publics du territoire.
Oui, pour le coup, c'est vraiment des petits morceaux du mosaïque qui va se composer ici chez nous et être visible tout l'été en fait, jusqu'au 21 septembre.
Voilà, et puis on le rappellera, Giulia, mais il y a deux lieux qui sont visés pour la restitution en fait, de ce projet.
Oui, effectivement, depuis quelques temps, la Halle n'est pas uniquement ces salles d'exposition, mais on a cet espace au niveau de la place, donc c'est un espace vitré ou vitrine, mais qui est dans l'espace public, j'aime bien le souligner, parce que ça décloisonne un peu aussi les propositions qui peuvent être y présentées. Donc effectivement, le projet de Valentin est présenté dans les showcases, donc ça c'est visible les matins à 6h, comme le soir à 2h du matin. Bon, à 2h du matin, les lumières sont éteintes, on a un minuteur quand même pour respecter aussi les horaires d'éclairage public, mais à n'importe quelle heure, on peut le visiter. Par contre, effectivement, la partie qui est dans l'auditorium, donc de la Halle, cette zone-là est effectivement dépend des horaires d'ouverture de la Halle, à prévoir avant visite.
Un projet qui a été chapeauté par les institutions du territoire, Giulia.
Oui, effectivement, cette résidence des transmissions est toujours organisée dans un cadre administratif qui est celui d'une convention territoriale aux arts et à la culture. Et c'est donc Saint-Marcellin, Vercors-Isère, communauté qui les porte avec des partenaires assez institutionnels à plusieurs niveaux parce que c'est avant tout l'État avec la région, les départements. Il y a aussi la CAF de l'Isère sur le projet de Valentin. Les parcs de Vercors aussi est signataire. Et donc effectivement, la Halle est l'opérateur de terrain et artistique pour cette résidence.
découvrons ce travail étonnant de Valentin qui donne des dimensions assez singulières de tout ce que l'on peut croiser au quotidien avec les différents publics du territoire. Valentin, juste un portrait de vous-même, à savoir vos aspirations artistiques et peut-être votre formation, un petit mot de votre cursus.
Oui, très rapidement, moi j'ai obtenu mon diplôme, donc un DNSEP en 2015, aux Beaux-Arts de Nancy. Voilà, à partir de ce moment-là, hein, dès que je suis sorti de l'école, j'ai continué à entretenir une pratique artistique que je mets en place au sein d'un atelier d'artistes partagés. Alors c'est à Lyon, ça s'appelle l'atelier Sumo, et on est quatre artistes à partager, quatre plasticiens à partager cet espace voilà, de création. Mon profil, je me considère comme un plasticien, à proprement parler, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui manipule la matière, principalement sous forme de sculpture, mais aussi d'installation. Et après, je n'ai pas réellement de matériaux de prédilection, j'ai quelques matières qui reviennent, mais ça varie au gré des expérimentations et puis au fil du développement de ma pratique.
On peut parler même de refabrication, hein, comme il est stipulé un petit peu dans la présentation de cette exposition, de donner des suites finalement à des matières premières, des objets ou des différentes choses.
Oui, alors c'est vrai que dans ma pratique, il y a quelque chose qui revient assez souvent, c'est que j'aime répliquer. J'aime travailler d'après nature et puis il y a vraiment un axe qui moi m'intéresse, qui est d'observer des objets. Des objets du quotidien. Souvent, j'ai fait des séries dans lesquelles je répliquais en céramique des multiprises électriques. Moi, j'aime bien m'attarder sur ces formes qu'on croise tous les jours et puis qu'on finit par plus vraiment remarquer, puis les reconsidérer comme des purs volumes. Voilà, c'est vraiment un exercice de sculpteur, de relire des choses qui nous entourent comme des volumes, comme des formes.
C'est ce qui a donné un stimuli finalement à vos différentes interventions sur le territoire. Alors comment ça s'est organisé tout cela? Cette notion d'objet au quotidien, de faire des focus et puis ensuite de laisser un peu évoluer les choses.
Oui, alors c'est vrai que ici c'est pas un territoire que je connaissais. Donc je me suis demandé quand je préparais ma proposition comment je pouvais faire pour le découvrir. Mais à travers les visions des participants. Je me suis dit que c'était intéressant de me les faire décrire quelque part. Et donc j'ai demandé, donc c'était un travail qui était en plusieurs phases. Alors après il faut quand même préciser qu'il y avait différents formats d'intervention. Voilà, il y a une partie de travail avec des scolaires, avec qui j'étais pas mal présent, avec qui il y a eu un développement de projet. Il y a eu aussi des ateliers qui étaient plus sur un seul module, avec une intervention de 3 heures. Donc je suis intervenu à différentes échelles.
On parle de résidence transmission, donc il s'agit dans cet esprit-là de transmettre, donner des outils et des choses comme ça auprès du public pour finalement qu'ils puissent s'accaparer certaines techniques ou une résonance de vos pratiques.
Oui, c'est vrai que j'ai essayé de remettre en jeu, de donner une façon aux différents publics, de reprendre des façons de faire que j'utilise dans mon travail, hein, principalement avec des choses très simples, hein, comme le modelage, qui pour moi a une place centrale dans ma pratique. Alors j'ai cet avantage-là de travailler avec des outils relativement simples dans ma pratique plastique. Donc c'est quelque chose qui se transmet assez bien, parce que pour moi, on a une vraie richesse quand on utilise des techniques qui sont abordables et puis des matériaux qui le sont aussi. Donc les matériaux que j'ai beaucoup utilisés, c'est l'argile, hein, bien sûr, pour en faire du modelage. Mais il y a aussi des matériaux moins communs qui reviennent dans ma pratique et que j'ai proposé, comme le polystyrène. Le polystyrène qui sert d'isolant. Voilà, dans la construction. Ça, c'est un matériau que j'adore, que j'utilise souvent et puis que je trouve très intéressant à proposer parce qu'il a beaucoup de qualité plastique.
Alors, pour découvrir tous ces objets, comment ça s'est passé avec les différents publics?
Le projet s'est organisé sous forme de collecte. C'est pour ça que ça se nomme catalogue du dehors. J'ai demandé à tous les participants, voilà, avec différentes règles du jeu, mais le fil rouge, c'est vraiment ça, c'est que J'ai organisé une collecte, donc en fait nous avons créé des sculptures, créé des objets qui se basent toujours sur une observation de la réalité. J'ai demandé à chaque participant d'observer quelque chose autour de lui pour le restituer sous forme de volume. C'est vraiment ça qui constitue le socle de mes actions. Alors ça s'est passé à plein de niveaux, mais ça pouvait être une observation du relief. Voilà, environnant, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez souvent présent, mais c'est aussi les objets du quotidien. En fait, c'était classé par diverses entrées. Vraiment, j'ai mimé un peu quelque chose qui serait de l'ordre de l'encyclopédique, avec des chapitres un petit peu. Donc on a les objets, les animaux, voilà, des grandes familles comme ça, de choses qui nous entourent, même les êtres humains qui sont autour de nous. Mmh. Et tout ça, ça a donné des petits défis de sculpture.
Les sculptures ont une suite, ont encore une vie ultérieure, on pourrait dire.
Alors oui, il y a vraiment deux aspects de cette recherche-là. Il y a celui dont je viens de vous parler, qui est les manipulations plastiques, hein, donc avec la terre, avec les matériaux, un vrai contact avec la matière. Parce que ça, c'est vraiment un axe qui, pour moi, est important, c'est aussi le fait de manipuler et puis la rencontre avec la matière. Et en fait, j'ai imaginé un prolongement qui, lui, est numérique. Alors, tous les objets qui ont été modelés, quasiment tous, ont été numérisés avec une technique que je vais essayer de vous décrire, hein, oui, très rapidement.
Mais une technique démocratique, hein, dont on peut s'approprier.
Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Donc, c'est la technique de la photogrammétrie. Pour le dire simplement, c'est une technique qui permet de créer des objets en trois dimensions, donc complètement numériques, en se basant sur des photographies qu'on prend des objets. C'est une technique qui nous vient de l'industrie, hein, et puis qui est utilisée par exemple en archéologie, mais qui aujourd'hui est devenue complètement accessible, voilà, et qui est facile à prendre en main. Et donc, c'est-à-dire qu'en prenant des photos de nos objets réels, on en a fait des versions numérisées. Voilà. Et ça a donné lieu vraiment à la deuxième partie du projet, qui est que tous les objets créés ont été numérisés, et ensuite ils sont utilisés, ces objets, pour prendre place, pour donner corps à un environnement numérique qui ressemble à un environnement de jeu vidéo. Donc c'est vraiment un environnement dans lequel on se déplace. Donc, on utilise une manette de jeu et on se déplace à l'intérieur. Sauf que tout le décor est constitué par les participants. Et puis c'est eux qui ont mis en place tout ce qu'on verra dans cet objet numérique. Moi, je l'ai proposé parce que c'est une technique que j'utilise personnellement plus à des fins d'archives. En réalité, moi, je l'utilise pour, par exemple, des essais de sculptures que je ne garde pas. Voilà. Ou juste des petits essais, parce que ça me permettait, par exemple, de faire des modelages en argile sans le faire sécher. Ça me permet de les prendre en photo et puis de les garder formellement, de pouvoir tout simplement les archiver, quoi. Mais là, j'ai vraiment proposé une forme d'extension des expérimentations plastiques. C'est-à-dire que pour moi, ces logiciels de traitement d'images de synthèse, ça vient comme une forme d'extension de la sculpture au sens classique. Parce qu'on peut soumettre les objets à plein de nouvelles opérations. C'est-à-dire qu'on peut revoir complètement leurs dimensions. On peut même en changer le matériau. On peut les dupliquer à l'infini. On peut les réassembler entre eux. Donc tout ça, ça donne tout un panel de possibles qui, pour moi, se situe vraiment dans une continuité des actions plastiques qu'on a mis en place.
Ça suggère donc des paysages, finalement, avec ces différents objets qui prennent chacun leur vie, leur proportion, même quelque chose qui a été sculpté et photographié petit, qui peut devenir beaucoup plus volumineux, finalement, que des choses massives. Après, c'est l'imagination et un peu l'arbitrage de chacune et chacun pour créer ces décors, c'est un petit peu ça.
Oui, exactement. Alors c'est vrai que ce qui est assez amusant, est-ce que les enfants ont bien aimé mettre en place, la première chose qu'on peut expérimenter, c'est prendre des objets très petits, et puis on peut en faire vraiment un élément de décor. On peut en faire une montagne, et puis on peut se déplacer dessus. On peut l'escalader, donc du coup on peut venir jouer avec un objet qu'on a créé. Et puis ça donne un double statut à ces objets, c'est-à-dire que pour moi c'était aussi important que les publics travaillent sur des sculptures qui prennent une autre dimension dans la partie numérique. C'est-à-dire que la sculpture en elle-même n'est pas la finalité du travail, en tout cas c'est une partie. Mais, et donc là, ça permet d'être beaucoup plus libre sur sa façon d'expérimenter le volume, je trouve.
Quel est le rendu de ces modélisations dans les paysages? En fait, c'est un peu une sorte de jeu vidéo. Comment ça se formalise ensuite?
Alors, le jeu vidéo hein, qui a été construit, la façon de procéder que j'ai utilisée, c'est que chaque groupe, c'est souvent des classes auprès desquelles je suis intervenu, avait à charge une île, donc c'est une sorte d'archipel. Donc, au départ, je leur ai donné une étendue d'eau, donc vraiment en plein milieu de l'océan. Et puis j'ai dit à chaque classe, bah, maintenant, vous allez devoir aménager une île en utilisant vos objets. Donc ils avaient leur librairie d'objets. Alors après, ils ont utilisé, parce que tous les objets numériques ont été constitués sous forme de fonds, vraiment de catalogue, hein, ça a été chargé sur une plateforme qui permettait d'avoir la liste. Donc, il y a une soixantaine d'objets qui ont été numérisés. D'accord. Et on pouvait aller piocher comme ça, comme si on avait une boîte de Lego. Mmh. Et puis on venait choisir dans ce catalogue et puis assembler, quoi. Donc ça donne un environnement qui ressemble à voilà, une succession de petites îles. Et puis nous, en tant que joueurs, on déplace, si vous voulez, une caméra qui est à hauteur d'œil. Voilà, et puis on la déplace comme si on marchait à l'intérieur de l'environnement, donc on est vraiment une sorte de randonneur. Et on visite cette installation.
Voilà, d'île en île, au gré de tous les objets qui ont été posés par les élèves, enfin par les enfants et les adultes.
Oui, il y a cette idée-là. Alors c'est vrai que ça arrivait assez naturellement pour les enfants de proposer quelque chose qui appelle le regard. C'est des notions quasiment de game design, hein, mais ils se sont toujours posés la question de savoir si, depuis tel point de vue, on a envie d'aller à un autre endroit. Mmh. Donc c'est vrai que c'était un peu l'enjeu, puisqu'il a été moteur pour leur permettre de construire. Alors après, la construction de ces espaces, elle a été collégiale. Parce que moi, c'est vraiment le cœur du projet, c'est que c'est, comme disait Julia, c'est un cadavre exquis, c'est-à-dire que il y a une notion de forme qui s'ajoute, d'objet qui s'augmente au fur et à mesure. Mais il y a aussi un côté de prise de décision collective. Donc les différentes îles, elles ont été... ça a été décidé par vote. Hein.
Oui.
Après, c'était assez amusant pour moi d'essayer de trouver des façons de proposer au groupe de faire des choix. Donc, parce qu'il y avait plusieurs choix à opérer, voilà, comment on sélectionner les objets, comment on les plaçait. Il y a eu aussi une notion de... on a recréé du relief dans le logiciel, donc... quelle forme on donne à l'extérieur. Donc il y avait des postes, hein, des élèves qui étaient en charge de postes et puis qui faisaient des propositions et puis ça a voté pour certaines directions. Voilà. Ils sont organisés.
Deux axes de restitution, le showcase donc, et puis l'auditorium est visé. Alors ça se passe comment pour...
Alors le showcase, lui, présente en fait toutes les versions physiques. C'est-à-dire toutes les sculptures, ah oui, tout le catalogue physique, toute la version matérielle. Voilà. Donc toutes les sculptures sont présentées dans la vitrine. L'auditorium, lui, en fait, présente la partie numérique, le jeu vidéo, qui est jouable, qui est lancé, puis qu'on peut venir manipuler, dans lequel on peut venir se déplacer, quoi, qu'on peut venir découvrir.
Ah oui, c'est interactif, donc, dans l'auditorium.
Oui, voilà, le logiciel est lancé, et puis on peut décider de se déplacer à l'intérieur.
Et ça se passe concrètement comment? Pour se déplacer, on a une manette, un ordinateur ou...
C'est une simple manette de Xbox, tout ce qu'il y a de plus classique, voilà. Avec des commandes qui sont au plus simple, hein, qui vont à l'essentiel, pour que ça reste accessible.
Julia.
Et ensuite, les jeux pourraient être aussi téléchargés depuis notre site notamment. Ouais. Donc l'idée, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi de re-rendre, au-delà de cette période d'exposition publique, vraiment de rendre cet objet accessible tout le temps et continuer un peu le prolonger dans les maisons et sur les écrans de tout le monde. Un grand merci quand même aussi aux participants, tous ces complices grands et petits qui ont travaillé aux côtés des Valentins sur plusieurs mois. Et donc je cite notamment les écoles du territoire, en particulier l'école du Stade de Saint-Marcellin, l'école des Cognans-les-Gorges, des Saint-Hilaire-de-Rosiers, de Saint-Pierre-des-Charennes, les lycées Bellevue, et puis d'autres groupes qui n'étaient pas forcément des groupes scolaires, mais quand même d'enfants et de jeunes. L'accueil à deux actifs jeunes de Saint-Marcellin qui a travaillé en collaboration aussi avec les tiers lieux numériques de la ville pour ces projets. L'accueil des loisirs intercommunal des Vinées, les centres sociaux La Fabrique à Saint-Marcellin et le mixage café à Saint-Sauveur. Et puis ici à la Halle et aussi à la médiathèque des Chattes, on a pu organiser des ateliers sur des périodes un peu plus courtes, sur des après-midi, mais vraiment avec tous les publics. Donc on a eu de la participation aussi plus transgénérationnelle aussi lors de cet atelier. Donc merci à tous ces complices qui ont rendu le catalogue possible.
Voilà, un large public pour ce projet. Rappelons donc ce qui concerne les dates de l'exposition et le vernissage.
Donc l'exposition ouvre ses portes au public le 13 juillet à partir des 18h, en même temps que le deuxième projet qu'on accueille cet été à la Halle, qui est Hydrométeur du duo Oisani Carrier. Et il est visible jusqu'à, on va dire, fin septembre, le 21 septembre précisément. Il y a juste une petite période de fermeture au mois d'août, la semaine de 5 au 10 août. Et sinon, on est toujours là pour vous accueillir et explorer.
Eh bien, merci Valentin Defoe, merci Giulia Turati.